Bonjour et bienvenue dans Grimage, votre seule émission sur la culture orale et donc votre préférée. Aujourd'hui, je vais commencer par évoquer une question qu'on me pose à peu près à chaque fois que je compte. D'où viennent les contes ? Où naissent les contes ? Parce que j'aime beaucoup quand on applique le verbe naître à un conte. Où naissent les contes ? C'est une question absolument superbe et à laquelle je ne pourrais pas donner de réponse définitive, mais je vais vous donner les quelques éléments de réponse que j'ai acquis au fil du peu d'expérience que j'ai. Il y a un premier fait important à voir pour moi. C'est que certaines structures reviennent. Certaines histoires sont universelles. Un exemple, prenez Cendrillon. Saviez-vous qu'il existe plus de 100 versions recensées de Cendrillon ? Dont une chinoise, une égyptienne. Un peu partout, on en trouve. Un autre exemple, plus proche de la légende, c'est le mythe du déluge, qu'on retrouve dans un nombre assez hallucinant de mythologies sumériennes, babyloniennes, et bien sûr, la Bible. Ces contes-ci semblent naître spontanément, à des endroits différents du monde. Pour ce qui concerne les archétypes, je vous conseille d'ailleurs les travaux de Jung sur la psychologie analytique, et particulièrement les travaux de Hillman sur la psychologie archétypale, c'est-à-dire l'imaginaire collectif et son lien avec les structures de pensée. Hillman était persuadé qu'on pouvait soigner certains troubles mentaux via l'utilisation de certaines structures et de certains archétypes qu'on retrouvait notamment dans les contes. Un second scientifique plus anthropologue, lui, dont les travaux sont extrêmement intéressants, c'est Joseph Campbell, pour sa théorie du monomythe, aussi appelé le héros aux mille visages. Si vous devez retenir une chose à lire de mon émission, lisez Joseph Campbell. Joseph Campbell estimait que toutes les histoires ne sont qu'une éternelle redite de la même structure. D'après lui, tout conte suivait un certain nombre d'étapes. Et on peut voir que sa théorie a bien été acceptée, puisqu'encore aujourd'hui, à l'école, au collège, on vous apprend la structure classique, situation initiale, élément perturbateur, péripétie, élément de résolution. Campbell ajoutait en tout une cinquantaine d'autres phases à cette histoire, mais on en revenait toujours à la même structure. Si on prend cet ensemble de théories comme fait, cela implique que les contes naissent presque organiquement, spontanément, qu'ils émergent des structures de pensée des humains, et donc qu'un conte pourrait parfaitement disparaître de la culture pour revenir une centaine d'années plus tard, parfaitement spontanément. Mais en complément de ce premier élément, il existe un second ensemble de faits à prendre en compte. La transmission orale, à sa propre manière, fonctionne extrêmement bien. Tenez, laissez-moi prendre un exemple. Vous avez tous entendu, un jour dans votre vie, des chansons paillardes, et plus particulièrement les chansons Balibalo, chantées sur l'air des Cadets Roussel. Ces chansons résonnent, encore aujourd'hui, dans les écoles primaires et dans les collèges. Saviez-vous que sous leur forme actuelle, elles existent depuis environ un siècle, et que sous des formes modifiées, on en retrouve la trace voilà 200 ans. Depuis 100 ans, ces chansons, pourtant bon enfant et assez simples, ces chansons, pourtant bon enfant et assez simples, se transmettent d'écolier à écolier et de paillard à paillard. Et depuis 100 ans, sans interruption, elles sont connues. Encore aujourd'hui, dans beaucoup d'écoles primaires et de collèges, vous les entendrez. De cela, on peut déduire que la tradition orale trouve toujours un moyen de survivre. Tenez, si un conte est compté à 20 personnes, il est fort probable qu'une partie d'entre elles, un jour ou l'autre, finira par la raconter à son tour à quelqu'un. Si on ajoute à cela la pratique extrêmement courante chez les conteurs de s'échanger des contes parfois d'un pays à l'autre ou d'un continent à l'autre, voilà. Les contes viennent simplement d'une seule et même racine commune. Les 100 versions de Cendrillon ne sont que des dérivés d'une seule et même racine. Mais d'où vient cette racine ? Elle vient d'un père à qui l'enfant demande « Pourquoi la montagne a cette forme ?» Elle vient d'un conteur qui, à court d'histoire, se résout à en inventer. Elle vient d'une mère excédée qui cherche à empêcher son enfant de sortir du village en lui faisant un peu peur. Elle vient du professeur qui essaye de faire passer une leçon. Elle vient d'un enfant trop inventif et qui s'ennuie. Elle vient d'un écrivain qui s'essaye au conte. Et parfois, elle vient d'un rêve. Je vais vous décevoir, je n'ai aucune idée de où vient le conte que je vais vous raconter. Je n'ai même aucune idée de quand il vient. Bien sûr, la forme est moderne, le fond est moderne, le style est moderne, le contexte même l'est. Mais je ne saurais vous donner une année ou un lieu. Je l'ai entendu de la bouche d'une amie conteuse, Lisa Bessade, qui est conteuse en Ardèche. Et je n'en ai jamais su l'origine. Et d'ailleurs, ce n'est pas important, puisque ce conte est fait pour être récent, afin que les auditeurs puissent pleinement l'apprécier. Il y a à peu près une vingtaine d'années, dans un petit village pas très loin d'ici, est né un tout petit garçon qu'on a appelé Joseph. Ah, il était beau, le petit Joseph. Ses parents en étaient fiers, alors ils l'ont couvert de cadeaux, dès la naissance. Mais bizarrement, le petit Joseph refusait les peluches. Il les laissait dans un coin sans jouer avec. Non, non, le petit Joseph avait un doudou, rien qu'à lui, sa coucou doudou. Parce que vous voyez, quand il est né, le petit Joseph, sa grand-mère est allée acheter du tissu bleu comme la nuit et du fil doré comme les étoiles. Et avec ce tissu et ce fil, elle lui a fait une grande couette, avec marqué dessus « Joseph, 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 Joseph » partout sur la couette. Ah, il l'aimait sa couette, sa coucou doudou. Il la traînait partout avec lui. On la mettait avec lui dans son parc, dans son lit, dans le salon, quand il a été assez grand pour jouer en dehors du parc. Il la traînait derrière lui en permanence, il suçait son pouce en la tenant. Il la gardait comme ça pendant 6 ans. Et au bout de 6 ans, la mère du petit Joseph lui a dit « Écoute, mon petit Joseph, ta coucou doudou, elle est toute sale. Elle est toute déchirée à force que tu la traînes par terre derrière toi. Je suis désolé, Joseph, mais il faut la jeter. » Alors elle a pris la coucou doudou et elle l'a mise dans une poubelle. Ah, il a pleuré, le petit Joseph, il a beaucoup pleuré. Et puis il a eu une idée. Dès que sa maman a eu le dos tourné, il est allé prendre la coucou doudou dans la poubelle. Il est descendu au village, en slalomant entre les arbres, traversé le village, et remonté de l'autre côté, en slalomant encore. Et il est allé toquer chez sa mémé. Mémé, mémé ! La grand-mère arrive, lui ouvre la porte. « Qu'est-ce que je peux pour toi, mon petit Joseph ?»« Maman, elle veut jeter ma coucou doudou. Oh, » c'est triste, ça. « Écoute, Joseph, j'ai une idée. Laisse-moi la couette. » Et reviens dans 3 jours, j'aurai quelque chose pour toi. Elle a beaucoup réfléchi, la mémé. Elle a beaucoup réfléchi et elle a tracé des plans. Et pendant 3 jours, elle a coupé, 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 cousu, 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 coupé, 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 cousu, cousu, cousu. Et 3 jours plus tard, quand le petit Joseph est revenu la voir, elle lui a donné un beau pyjama bleu nuit, avec marqué dessus, en fil doré comme les étoiles, Joseph, 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 partout sur le pyjama. Ah, il l'aimait, son pyjama, le petit Joseph. Il le portait tout le temps. Oh, pas à l'école, bien sûr, mais dès qu'il était chez lui, il le portait. Même en dehors du lit, pour petit déjeuner, pour regarder la télé. Tout le temps. Et le problème d'un pyjama qu'on porte tout le temps, c'est qu'on l'abîme très vite. Et voilà qu'un jour, en se levant un peu vite, crac ! Joseph déchire le bas de son pyjama. Sa maman le voit et lui dit « Écoute, mon petit Joseph, ton pyjama est un peu fatigué, il est un peu déchiré, et puis tu deviens trop grand pour lui. Je suis désolé, mon petit Joseph, mais il faut le jeter. » Alors, elle a pris le pyjama et elle l'a mis dans la poubelle. Le petit Joseph, qui avait 10 ans à l'époque, a pleuré. Il a beaucoup pleuré. Et puis, il a eu une idée. Dès que sa mère a eu le dos tourné, il est allé dans la poubelle et hop, il a récupéré son pyjama. Et il est descendu en courant à la ville, en slalomant entre les arbres, traverser la ville. Et la remonter de l'autre côté, en slalomant. Mémé, 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 qu'est-ce que je peux pour toi, mon petit Joseph? Maman, elle veut jeter mon pyjama. C'est terrible, ça, mon petit Joseph. Écoute, voilà ce que j'en vais faire. Donne-moi ton pyjama et reviens dans 3 jours, j'aurai quelque chose pour toi. Elle a beaucoup réfléchi, la mémé. Elle a beaucoup réfléchi et elle a coupé. Coupé, coupé, cousu, 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 pendant 3 jours, coupé, 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 cousu, cousu, cousu. Et quand Joseph est revenu la voir, 3 jours plus tard, elle lui a donné une belle veste, bleu nuit, avec marqué dessus, au fil doré comme les étoiles, Joseph, 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 partout. Ah, oh, il en était fier de sa veste. Il la mettait pour aller jouer avec ses copains, pour grimper dans les arbres, pour se balader. Il la gardait quand même pendant 5 ans, jusqu'à ce qu'elle devienne trop petite pour lui et qu'elle lui serre les bras. Alors un beau jour, sa maman lui a dit « Écoute, mon petit Joseph, ta veste, elle est beaucoup trop petite pour toi maintenant. Tu peux plus la mettre. Il faut l'acheter. » Elle a pris la veste de Joseph et hop, elle l'a mise dans la poubelle. Joseph, il n'a pas pleuré, parce qu'à 15 ans, on est grand. Bon, d'accord, il a un peu pleuré, mais pas beaucoup. Et puis, dès que sa maman est le dos tourné, il est allé chercher la veste dans la poubelle, il est descendu au village, en slalomant entre les arbres, traversé le village, remonté de l'autre côté. Mémé, mémé! Mais qu'est-ce que je peux pour toi, mon petit Joseph? Elle avait un peu vieilli, la mémé, mais toujours bon pied, bon oeil. Maman, elle veut jeter ma veste. Ah, c'est terrible, ça, mon petit Joseph. Écoute, laisse-moi ta veste et reviens dans 3 jours. J'aurai quelque chose pour toi. Ah, il a beaucoup réfléchi, la mémé. Beaucoup, beaucoup réfléchi. Qu'est-ce qu'elle va pouvoir faire? Alors, elle a une idée. Elle a tracé des plans. Et pendant 3 jours, elle a coupé, 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 cousu, 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 coupé, 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 cousu, cousu, cousu. Et 3 jours plus tard, quand Joseph est revenu, elle lui a donné une belle cravate, bleu nuit, avec marqué dessus, au fil doré comme les étoiles, Joseph. Ah, il en était content, Joseph, et puis fier, c'est un truc de grand, une cravate. Il l'a mis pour sa première communion, il l'a mis pour son premier rendez-vous avec une fille, pour son premier travail d'été. Il l'aimait bien. Il l'a gardé jusqu'à l'âge de 18 ans. Et puis un jour, à l'âge de 18 ans, en mettant sa cravate, je craque, il la casse. Sa maman attrape la cravate, dit « Oh, mon petit Joseph, ta cravate, elle est cassée, il va falloir que je la jette. » Elle le jette dans la poubelle et elle tourne le dos pour bien que son petit Joseph ait le temps de récupérer la cravate. On peut rien cacher à sa mère. Alors le petit Joseph, comme si sa mère n'avait rien remarqué, récupère la cravate, monte sur son vélo, slalome entre les pins jusqu'au village, traverse le village, remonte de l'autre côté. Ouh, c'est plus dur à monter. Mémé, mémé! Elle met du temps à arriver, elle a vieilli. Mémé! Qu'est-ce que je peux pour toi, mon petit Joseph? J'ai cassé ma cravate. C'est terrible, ça. Reviens dans 3 jours. J'aurai peut-être quelque chose pour toi. Elle a beaucoup réfléchi, elle a beaucoup, beaucoup, beaucoup réfléchi, la mémé. Et elle a eu une idée. Elle a tracé des plans. Pendant 3 jours, elle a coupé, 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 cousu, 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 coupé, 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 cousu, cousu, cousu. Et 3 jours plus tard, quand Joseph est revenu la voir, elle lui a donné un petit patch. Vous savez ce qu'on met sur les jeans? Bleu nuit, avec dessus, au fil doré comme les étoiles, Jo. Oh, il en était content de son patch, le petit Joseph. Il le mettait sur son jean et il l'a gardé là longtemps. À la fois parce qu'il l'aimait et puis pour faire plaisir à sa grand-mère qui s'était donné du mal quand même. Et puis un jour, 2 ans plus tard, alors qu'il avait 20 ans, Joseph est allé jouer avec ses copains au football. Tout s'est bien passé, il a gagné parce qu'il était plutôt sportif. Et voilà qu'à la fin du match, Joseph se rend compte que le patch n'est plus sur son jean. Il l'a cherché. Il l'a beaucoup cherché. Il a fait tout le terrain de foot. Et il n'a pas trouvé son patch. Alors, tout triste, il a traîné des pieds entre les arbres, descendu jusqu'à la ville, traversé la ville, remonté de l'autre côté, toujours en traînant les pieds. Mémé, qu'est-ce que je peux pour toi, mon petit Joseph? J'ai perdu le patch que tu m'as fait, je suis désolé, mémé. Est-ce que tu peux faire quelque chose pour moi? Si tu me ramènes pas de tissu, mon petit Joseph, je ne peux rien faire pour toi. Ça fait longtemps que je ne trouve plus de tissu bleu nuit et de fil doré comme les étoiles. Désolé, mon petit Joseph. D'accord, mémé. Ah, il est descendu jusqu'à la ville. Triste. Entre les arbres, il slalome un petit peu. Et il traverse la ville, et un de ses amis à vélo le croise et lui demande « Mais dis-moi, Joseph, qu'est-ce qui t'arrive? T'as l'air tout triste. » Alors Joseph s'assoit sur un banc et commence à raconter son histoire. Et bientôt, un deuxième ami les rejoint et s'assoit pour écouter l'histoire. Un troisième, le vieux du village, un petit garçon qui jouait là, une mère avec son enfant. Et bientôt, Joseph a devant lui 30 personnes qui écoutent son histoire. Et Joseph a fini son histoire, mais il peut voir dans les yeux de ces gens qu'ils en veulent plus. Alors il invente une histoire, aussitôt. Et une autre, et une autre. Et quand, 1h30 plus tard, il rentre chez lui, il voit dans les yeux de ces gens un petit peu de magie, une petite étincelle qu'il a réussi à leur apporter. Alors le petit Joseph s'est dit « J'ai pas tout perdu dans cette histoire. » Et il s'est aussi dit « Maintenant, je sais ce que je veux faire plus tard. » Alors si d'aventure vous croisez un conteur, traitez-le avec respect, parce qu'il est possible que, tout au fond de son portefeuille, il ait une toute petite photo, une toute petite photo de lui avec une couette bleue. Vous êtes toujours sur Radio Campus Grenoble 90.8 et vous écoutez Grimage. Ce conte-ci est bien plus doux que le précédent, n'est-ce pas ? Bien plus joyeux. Et il répond en partie à la question que je me posais en début d'émission. Parfois, juste parfois, quelqu'un se contente de raconter son histoire et ça devient un conte. Comme la fois précédente, je vais séparer clairement le fond et la forme. Au niveau de la forme, il n'y a pas de grande originalité dans celui-ci, et surtout on va retrouver beaucoup des ressorts du conte d'il y a 2 semaines. La structure répétitive est toujours là. C'est un grand classique. Et on retrouve également l'escalade, mais dans un sens inverse de celui des Korrigans. Pour le conte des Korrigans, vous vous souviendrez, ou je vous l'explique si vous ne l'avez pas entendu, on commençait avec 10 Korrigans et on augmentait le nombre, jusqu'à ce que tous les Korrigans de Bretagne soient là. Et ici on fait l'inverse. On part d'une grande quantité de tissu, et à chaque occurrence on en coupe un morceau, jusqu'au moment où il n'y a plus de tissu à couper. Et c'est là qu'on a une brisure dans le rythme. C'est là qu'on a une surprise, un incident perturbateur très tardif dans le conte. Plus de tissu. Ce conte est clairement un voyage initiatique. Joseph y grandit. D'ailleurs, c'est rare qu'on voit un conte qui s'étale sur autant de temps. Joseph y grandit et surtout, il apprend. Et le voyage finit sur la leçon, sur son ultime apprentissage. Tout voyage est riche d'enseignements. On ne perd jamais tout et on apprend toujours quelque chose. On trouve un conte ici qui n'a pas de magie. C'est très rare dans les contes et je trouve que ça apporte un peu de fraîcheur parfois. Pour changer des fées, des lutins, des sorcières, des dragons. Ici, on parle d'un enfant, de sa mère et de sa grand-mère. Ce sont presque les 3 seuls personnages du conte. Et il y a quelque chose d'intéressant dans ces 3 personnages. Prenons la grand-mère. Elle prend ici un visage de mentor, de guide. Pendant le voyage, on ne voit jamais bien ce qu'elle fait. Bon, bien sûr, je vous dis cousu, 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 coupé, 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 mais vous n'avez jamais les détails. Ce qui introduit une sorte de mystère sur la façon dont elle fait les choses. Vous l'aurez compris, c'est la grand-mère qui joue le rôle d'aide magique. Alors, l'aide magique est un archétype extrêmement usuel dans les contes. Vous le retrouverez dans Joseph Campbell si vous le lisez. C'est la grand-mère qui joue ici la fée du conte. On croirait voir Marraine la bonne fée dans Cendrillon. La mère, elle, joue un rôle d'abord sévère et presque antagoniste, en jetant les objets à la poubelle, avant de prendre un rôle plus calme, maternel et compréhensif. Tandis que Joseph suit une transition relativement semblable, passant du petit enfant capricieux à l'adulte. Je me permets de faire un petit lien avec la figure mythologique de la déesse triple, la jeune fille, la mère et la vieille femme, qu'on retrouve dans la culture grecque, la mythologie grecque, mais aussi dans le néopaganisme. Bien sûr, je vais m'arrêter là pour cette partie de l'analyse, je n'ai pas les compétences pour aller plus loin, mais une fois de plus, les archétypes reviennent, et les structures sont semblables. Même si ici, le rôle de la jeune fille est tenu par un homme. Et enfin, l'ultime astuce du conte, c'est de laisser planer le doute. Le doute sur l'authenticité, puisque le conte est récent, mais aussi le doute que j'aime à appeler autobiographique. Qui êtes-vous pour dire que le conteur qui vous raconte cette histoire n'a pas dans son portefeuille cette petite photo avec la couette bleue? Et c'est là tout l'intérêt du conte. Vous étiez bien en train d'écouter Grimage sur Campus Grenoble 90.8. Ça a été une fois de plus un plaisir de vous parler. Et surtout, jusqu'à la prochaine fois, réfléchissez et envoyez-moi plein de contes. Bonne soirée.